Señor, bendice. Bon, finalement, Fabrice a réussi à vous mettre tous dans cette salle. Et il m'a demandé de supprimer les places là-bas derrière. Je l'accuse. Et Dieu vous bénisse richement. Et pour tous ceux qui travaillent, encore, riche bénédiction pour tout le travail que vous faites. Nous allons prier. Père céleste, nous venons à toi maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il nous a enseigné à venir ainsi, à nous approcher ainsi de ton trône de miséricorde. Nous croyons que dans la prière, nous pouvons te faire connaître nos problèmes, nos soucis, et ce dont nous avons besoin pour pouvoir progresser. Et si nous croyons que ce que nous demandons, nous le recevons, tu nous l'accordes, pourvu que nous te demandions de bonnes choses, que nous ne te demandions pas des scorpions ou des serpents, que tu nous assistes ce soir, alors que nous sommes venus juste pour nous mettre autour du feu, pour nous réchauffer. Ô Dieu, ce feu divin, par ce feu divin du Saint-Esprit, autour de ta parole, que ta parole, que le Saint-Esprit ravive cette parole, qu'elle ne soit pas juste une lettre, mais qu'elle puisse vivre au milieu de nous, au travers de nous, au-dedans de nous. Bénis tes enfants qui sont venus ce soir. Et si nous avons quelque chose qui ne te plaise pas ou qui ne t'est pas plu, nous te demandons tout simplement de bien vouloir nous pardonner. Garde-nous de tout mal. Garde-nous de toute mauvaise pensée. Garde-nous de toute distraction. Que nous puissions être tout simplement entièrement consacrés à toi en cet instant, car ce temps t'appartient. Il ne nous appartient pas, il n'appartient pas à nos problèmes, il n'appartient pas à nos soucis, mais il t'appartient à toi, que tu œuvres au-dedans de nous. Pardon pour nos péchés, et nous te demandons tout cela en te demandant aussi de bien vouloir prendre soin de nos bien-aimés qui ne sont pas là ce soir, que tu les bénisses là où ils sont. Lorsqu'ils écouteront, que tu les bénisses. Te demandons également, Père, de bénir tous ceux qui travaillent dans cette maison pour la rendre encore plus confortable. Non pas pour y paraisser, mais encore pour y mieux t'adorer, pour mieux apprendre de ta part. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà, ce soir, nous allons lire juste un psaume que nous connaissons très bien d'ailleurs. N'est-ce pas ? L'Éternel est mon berger. Psaume 23. De David. L'Éternel est mon berger, Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons déjà abondamment prêché sur ce psaume. Aujourd'hui, je suis conduit un peu à parler du verset 6, le dernier verset. Ça a attiré mon attention en lisant la version du roi Jacques en anglais, mais bon, en français, il dit tout simplement, si je dois traduire cela en français, il dit « sûrement ». Sûrement. La bonté et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça va? J'aime bien le sûrement. Et j'aime bien la bonté et la grâce qui l'accompagnent. Pas seulement dans les bons jours, mais tous les jours de sa vie, les bons et les mauvais. Et elles le suivront tout au long de sa vie. C'est dire que la bonté de Dieu et sa grâce sont ses compagnes. Qu'importe là où il va. Amen. Et c'est la bonté de Dieu, c'est sa nature. Dieu est bon. C'est dans sa nature. Et quand Moïse lui a demandé de lui faire voir sa gloire, Dieu lui dit ceci dans Exode 33. Verset 18, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Dites amen à ça. La bonté, sa bonté est indissociable de lui. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Sa grâce est indissociable de lui. Dieu est un Dieu de grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Si jamais je marche hors des sentiers battus, si je marche mal, sa bonté, elle me pousse à la repentance. Parce que Dieu veut que je me repente. Il ne veut pas que ce mal reste collé à moi. Dans Romains 2, verset 2, Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses, pour ça il faut voir un peu plus haut, est selon la vérité. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Et c'est merveilleux, ça montre que cette accompagnatrice qui va partout où je vais, dans mes bons et mes mauvais jours, veille sur moi. Et si je vais mal, eh ben, elle me pousse à me repentir. Si je parle mal, elle me pousse à me repentir. Et le chemin que Dieu a tracé pour moi, puisque sa bonté me pousse à me repentir, il se fait que je ne peux jamais me tromper de chemin. Je serai toujours dans le bon chemin. Quand bien même, étant pécheurs que nous sommes, c'est toujours dans le bon chemin que nous marcherons. Nous ne pouvons pas rater le bon chemin, pour autant que nous lui fassions confiance. Dans le psaume 25, David, nous savons combien David a commis des fautes, mais la bonté de Dieu l'a toujours remis sur les rails. Dans le psaume 25, David le reconnaît. Il dit, au verset 8, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Vous ne pouvez pas vous tromper. Dieu veut que vous arriviez à bon port. Là où il veut que vous arriviez, vous y arriverez certainement. David en est certain. Sûrement, la bonté et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Et dans les sentiers qu'il nous montre, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Il ne le fait pas parce que nous sommes bons, mais il le fait à cause de son nom, pour que son nom ne soit pas blasphémé. Ça veut dire qu'en tant que croyants, que là où nous marchons, là où nous nous trouvons, quoi que nous fassions, quelque événement que nous ayons à célébrer, il ne faut pas que le nom de Dieu soit blasphémé. Il faut que le nom de Dieu soit toujours honoré. Amen. Nous ne pouvons pas être orgueilleux parce qu'il nous conduit dans l'humilité. Quand nous sommes orgueilleux, impossible de connaître la voie à suivre. Par contre, ce sont les humbles qu'il conduit dans la justice. Et sa bonté, retenez bien ceci, vous ne l'épuiserez jamais. Ça signifie quoi? Puisqu'elle vous pousse à la repentance. Je l'ai dit encore dimanche, je l'ai dit il y a quelques jours, je le redirai encore souvent. Si vous vous êtes repenti pour une faute que vous avez commise, d'une faute que vous avez commise, et que vous avez senti que Dieu a entendu votre prière. Amen. Vous savez, quand vous êtes en relation avec Dieu, quand Dieu vous écoute, au moment où vous priez, vous savez que Dieu vous écoute. Amen. C'est comme le téléphone. Je téléphone à l'un d'entre vous. Quand vous décrochez, je sais que vous êtes là et je vais vous parler. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu n'utilise pas les téléphones matériels ici. Le téléphone que Dieu utilise, c'est la prière. Il vous parle dans votre cœur. Vous lui parlez. Vous pouvez même lui parler à partir du cœur. Vous n'êtes pas obligé de crier. Vous n'êtes pas obligé de hurler. Vous savez, Anne, dans le temple, elle priait, les paroles ne sortaient pas. Il y a juste ses lèvres qui bougeaient. Amen. Mais le sacrificateur, Élie, le sacrificateur, il pensait que elle était ivre. Mais elle n'était pas ivre. En fait, elle disait des choses depuis son cœur. Et Dieu a entendu sa prière. Sa prière a été exaucée. On n'est pas obligé de hurler. On n'est pas obligé de crier. Si l'Esprit vous pousse à crier, gloire à Dieu. Si l'Esprit vous pousse à le dire du fond de votre cœur, gloire à Dieu. Mais soyez certain que Dieu vous entend. Soyez certain que votre prière monte. Et si vous avez demandé et que Dieu vous a pardonné, Satan viendra vous rappeler ça. Dans les mauvais jours, Satan vous dira, en fait, ce qui se passe là, c'est parce que tu as fait ça. Chassez-le. C'est une chose que Dieu a oubliée. Parce que Dieu a la capacité d'oublier nos péchés. Ça va? Donc, soyez certains de la miséricorde de Dieu. Lamentations chapitre 3. Vous vous êtes repenti pour vos fautes d'aujourd'hui ou d'hier. Dieu vous a entendu. Vous en avez commis encore aujourd'hui, repentez-vous. Dieu vous entendra. Au verset 23, 22, pardon, il nous est dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Vous ne pouvez pas épuiser ces bontés. Imaginez un poisson, frère Abraham dit, imaginez un poisson dans l'océan. Qui dit, non, je vais manger avec économie pour ne pas épuiser toute la nourriture de l'océan. Je dois penser à demain. Bon. Demain, le poisson aura toujours à manger. L'océan est suffisamment vaste. Il y a suffisamment de nourriture pour lui. Il y a suffisamment de repentance pour vous. Même si c'est une chose très grave. Vous savez, même un petit mensonge, c'est très grave devant Dieu. Le petit mensonge est tout aussi grave que le gros mensonge. Là, je vais vous dire que le petit mensonge risque même d'être plus grave que le gros mensonge. Pourquoi? Parce que le petit mensonge va vous faire croire que vous n'avez pas menti. Ouais? Ah non, ça, c'est rien, ça. Mais si, c'est quelque chose. Amen. Par contre, un gros mensonge, là, vous allez vous en rendre compte directement. Amen. Donc ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Maintenant, qui est-ce qui en bénéficie de cette bonté? Verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Pourquoi, quand on espère en lui, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce n'est pas parce que vous êtes silencieux qu'il ne voit pas que vous êtes dans l'embarras. Il a les yeux scrutés sur vous. Il a son regard fixé sur vous. Avant même que vous n'ouvriez votre bouche, il sait ce dont vous avez besoin. Sa bonté et sa grâce forment un duo. Elle se balade, elle se promène, elle vous accompagne toujours à deux. Vous pouvez prendre sa miséricorde. Dans certaines Bibles, c'est écrit la miséricorde. De toute façon, on l'a déjà dit, la miséricorde et la grâce sont des sœurs jumelles. Toujours ensemble. On en a déjà abondamment parlé. Et Dieu ne se prive pas de les renouveler chaque matin. Savez, tous les jours ne sont pas toujours ensoleillés. Nous sommes au mois d'octobre. Le temps qu'il fait aujourd'hui, on peut se balader en petite chemise. C'est exceptionnel. Mais tous les jours d'octobre ne seront pas comme ça. Ça va? Aujourd'hui, on a eu un beau jour. Quand vous suivez la météo, ils vont vous dire demain il va pleuvoir. Et le temps va changer. Ça va se rafraîchir. Et quand le temps va se rafraîchir, il ne fera pas tout le temps froid. Il arrivera un jour où il fera chaud. Les jours peuvent se ressembler ou ne pas se ressembler. C'est pas grave, ils peuvent être différents, mais la bonté de Dieu demeure toujours la même. Elle ne bouge pas. Dans les jours ensoleillés, dans les jours qui brillent, et les sentiers du Seigneur ne sont pas toujours plats, lisses, il y a parfois des dénivellations. Mais sa bonté vous accompagnera toujours. Elle ne vous lâchera pas dans les mauvais moments. Elle ne vous lâchera pas dans les bons moments. Toutes les deux seront toujours présentes. Il y a des jours de tempête, c'est vrai. Et dans les sentiers de l'Éternel, il peut y avoir de la tentation. David parle de la vallée de l'ombre de la mort. Dans l'ombre, il y a beaucoup de choses mauvaises qui peuvent s'y cacher, que vous ne voyez pas. Il y a des dangers dans l'ombre. Mais David a cette assurance qu'il ne lui arrivera aucun mal. Les tentations peuvent s'y cacher. Jésus a dit dans sa prière, dans Jean 17, il a dit, je ne les ai pas ôtés du monde, mais ils ne sont pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Les tentations sont nombreuses. Le cantique dit que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Mais ça, c'est à demander à Dieu. Parce que la séduction, elle est toujours là. Quand le Christ nous a appris à prier, il a dit, quand vous priez, dites, connaissez le début, puis il y a une phrase là, ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Ça veut dire que nous pouvons tomber, mais quand nous ne tombons pas, c'est parce que sa grâce et sa bonté nous ont accompagnés. Si vous n'êtes pas tombé devant telle tentation, ne dites pas que vous êtes fort. C'est la grâce de Dieu qui vous a soutenu. Et parce que Dieu est bon, c'est pour cela que vous n'êtes pas tombé. Parce que Satan, de nous tous ici, même ceux qui ne sont pas là, Satan connaît nos faiblesses à tous. Il sait quoi faire pour que je puisse tomber, rien que en venant de l'assemblée, après avoir eu un moment béni. Il sait comment me faire tomber en chemin. Si ce n'est pas en chemin, il sait comment me faire tomber même chez moi. Alors que tout allait bien, on s'est bien séparés, frère, que Dieu te bénisse, sœur, que Dieu te bénisse, et puis on se sépare, on part, on prend le tram en sifflotant, ou bien on prend sa voiture, on sifflote, et puis on arrive à la maison, patatras. Voilà que tout dégringole. Alors vous vous regardez, vous dites, il m'a eu. Maintenant, s'il vous a eu, relevez-vous. Dieu est là pour vous relever. Ça va? Repentez-vous de votre faute et Dieu vous relèvera. Donc, ne tombez pas dans l'orgueil. Toutes ces choses se cachent dans cette vallée de la mort. Si nous commettons une faute, comme nous le chantons, nous comptons toujours sur sa grâce pour aller plus loin. Dans cette marche, nous ne devons pas faire du surplace, nous devons avancer. Aujourd'hui, si je suis plus proche du Seigneur que je ne l'étais hier, ce n'est pas grâce à mes efforts, c'est par la grâce de Dieu. Paul dit, hier j'étais persécuteur, mais aujourd'hui je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ça va? Et David a expérimenté cela. David a commis des gaffes, commis des fautes. Mais quand Dieu lui a inspiré des cantiques, il sentait, il savait que ça venait de Dieu. Vous savez, les choses qu'il écrit ici, nous, nous avons toute la Bible. Notre frère qui a composé, par exemple, Consolez, consolez mon peuple, quand il a eu à composer cela, l'inspiration lui est venue. Il avait là sa Bible à côté. Les frères de la chorale, compositeurs, quand ils composent, ils ont toute la Bible. David n'avait quasi que les livres de la loi, là, les 5 livres. Mais cette inspiration, lorsque ça lui venait, il savait d'où ça venait. Et il n'hésitait pas à prendre, à donner ça au chef de chant. Et quand vous avez ce contact-là avec Dieu, ben, David sait que ce n'est pas grâce à ses talents de poète qu'il écrivait tous ses psaumes. Il parle de la grâce et de la bonté de Dieu qui a fait que il ait pu composer cela. Et cela a commencé. Il était tout petit. Il a Comme il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné. Dieu a toujours été avec lui. Cette bonté, dans le psaume 5, il dit ceci. Toujours lui, hein, David. Cette grâce, cette bonté. Verset 12. Alors tous ceux qui se confient en toi, verset 12, hein, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Ça veut dire que toutes les flèches enflammées du malin, lorsqu'elles sont décochées sur vous, il y a la grâce de Dieu qui vous entoure. Ce qui fait quand bien même vous êtes touché par une de ces flèches, par un de ces traits enflammés, lorsque vous dites, oh, il m'a eu, il y a la grâce de Dieu qui intervient. Dieu vous fait grâce. C'est pourquoi David dit, il est mon berger. Je ne craindrai aucun mal. Je dois passer par là, j'y vais, Seigneur. Il a eu des bons et des mauvais jours. Il y a eu du bon et du mauvais sur son chemin. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il était certain de son Dieu. Il dit, je ne crains aucun mal. Danger m'entoure, comme dit le cantique, mais il sait déjà, David savait, nous devons savoir, parce que cela est écrit, que en toute chose, en lui, nous sommes toujours vainqueurs. Mieux, triomphants. Une grande victoire. Pourquoi? Parce que celui qui nous conduit, lui, il a lui-même triomphé. Il n'a pas eu une petite victoire. Et comme il n'a pas sa victoire à lui qu'il a eue, le triomphe qu'il a eu, qu'il a obtenu, il nous le donne. Dans Colossiens 2, ce n'était pas un petit combat. Hein. Le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a triomphé. Et l'apôtre nous dit dans Éphésiens, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre des dominations, contre des autorités, contre des princes du monde de ténèbres. C'est dire que le combat dans lequel nous sommes engagés est un véritable combat. On ne se bat pas contre des estropiés. Hein. On se bat contre de véritables adversaires. C'est pourquoi chaque victoire doit être célébrée dans l'allégresse. Chaque victoire doit être célébrée dans la joie. Et jamais vous ne pourrez connaître la défaite, même si la situation n'est pas celle que vous désiriez. Sachez ceci, la victoire est à vous. Pour cela, Il nous faut croire que Christ a vaincu toutes ces choses à la croix. Dans 2 Corinthiens 2, verset 14, il dit: Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait, pas quelquefois, qui nous fait toujours, toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et pourquoi vous triomphez toujours? Vous avez deux accompagnatrices qui vous accompagnent partout où vous allez. À tout moment, elles ne vous abandonnent jamais. C'est quoi? La bonté de Dieu et sa grâce. Partout où vous irez, elles seront là. Amen. Et David dit, sûrement, dans la traduction du roi Jacques. Il dit sûrement, ou bien ici, il dit oui, pas non. Oui. Il n'y a pas de non. C'est un oui. Il n'y a pas de peut-être. Peut-être que Dieu me manifestera sa bonté. Non. Sûrement. Il n'y a pas que, il n'y a pas de j'espère que Dieu sera bon avec moi là où je vais. Non. Je souhaite, non. C'est sûrement. Je suis certain de cela. David, quand il parlait, il était sûr de ce qu'il disait. Sûrement, même lorsqu'il fallait combattre Goliath, ce n'était pas un petit combat. C'était contre quelqu'un d'entraîné. Comment est-ce que quelqu'un en arrive à être certain de ce qu'il dit là à propos de Dieu? C'est que quelque chose s'est passé dans sa vie. Il a expérimenté quelque chose dans sa vie. Il a tellement bien expérimenté il peut attraper un énorme coup dans sa vie. Il va être un peu ébranlé, mais il n'abandonnera jamais. Cela s'est passé dans sa vie. C'est là où l'apôtre dit, ni la mort, ni la famine, ni la persécution. Rien de tout ça ne peut me séparer de son amour manifesté en Jésus-Christ. Rien, rien de. Je peux être dans la famine aujourd'hui. Je peux être privé de nourriture aujourd'hui. Satan me dira, tu vois, Dieu ne t'aime pas. Mais il y a sa bonté. Et sa grâce feront que je lui répondrai à Satan, il m'aime quand même. Vous savez, moi, je me suis toujours demandé, dans la parabole du riche et du pauvre, ils sont morts là. Le pauvre, il est mort pauvre. Il est mort pauvre. Il y avait un riche qui vivait de manière ostentatoire, enfin, de manière trop visible, donc montrant combien il pouvait bien vivre. Il privait ce pauvre-là même de miettes. Mais ce pauvre ne s'est pas retrouvé dans le sein d'Abraham. Parce qu'il était pauvre, non. Mais c'est parce que la pauvreté n'est pas un critère pour y arriver. Un critère pour y arriver, c'est la foi. C'est la foi qui vous sauve. Il n'a pas perdu la foi, malgré les conditions dans lesquelles il vivait. Et David, quand il a eu à affronter Goliath, il s'est souvenu de quelque chose qui s'est passé dans sa vie. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas craindre le combat qui se présentait devant lui. Les autres, c'était des Israélites, d'accord, qui étaient là. Ah, ils chantaient certainement des cantiques. Ils chantaient certainement Tchirobo, le Dieu puissant dans la bataille. Ils chantaient certainement ces choses. Mais quand il a fallu appliquer le Tchirobo, ils se sont tous mis à trembler. Pourquoi? Parce que rien ne s'est passé dans leur vie. Ils ont juste appris un cantique parce que Noah leur a appris à chanter. Ou il leur a fait chanter. Ou frère Tombeau leur a fait chanter. Mais quand David est arrivé, Saül lui dit, écoute, c'est à Samuel 17. Regardez. Verset 23 d'abord. Tandis que David parlait avec ses frères, hein, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Ça, c'est Satan. Alors, frère Branham dit, Satan, à force de parler aux chrétiens, ça finit toujours par arriver un jour dans les mauvaises oreilles pour lui. Jusque-là, il savait qui impressionner. Mais quand David est arrivé un peu en catimini. Il n'était pas parmi les bataillons qui étaient là. Il est venu, non pas armé, il n'a pas apporté des armes nouvelles, il est venu avec de la nourriture pour apporter à ses frères. Et quand il est arrivé là, c'était même pas un combattant. Ce qui fait, peut-être que les Philistins l'ont vu arriver. Ils ont vu quelqu'un s'engouffrer dans le camp des Israéliens là-bas. Goliath a regardé, il a dit, il va encore m'avancer, je vais encore m'avancer et je vais leur répéter. Et il a répété ce qu'il leur avait déjà dit avant. Il dit, il tient le même discours qu'avant, que précédemment. Et là, David a entendu. Ce jour-là, c'est tombé dans des mauvaises oreilles pour lui. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui, et frères, et le Tchilobo, et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous avancé cet homme? Vous avez vu ce que ça fait? Ne regardez jamais les effets du malin. C'est toujours impressionnant. Ayez les yeux fixés sur la promesse. Ne lisez pas ça comme un roman. Quand le frère fait ce drame, Sarah, comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Eh bien, toujours la même. Il dit, gloire à Dieu. Demain, ce sera un plus grand miracle. Ça fait quoi? Ça a gonflé. Gloire à Dieu. Ça va être un plus grand miracle. Et puis, ça va jusqu'au bout. Je vous ai dit la fois passée, on m'avait envoyé un texte et j'ai beaucoup aimé ce texte. Dans ce texte, il est dit, vous êtes plus fort que Satan. Satan est limité. Satan a des limites. Avant, on va revenir sur la Samuel 17. On va prendre Job. Et ses limites, c'est Dieu qui les lui fixe. Job 1er, verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Moi, j'y peux rien. Donc, vous voyez qu'il est limité. Parce que tant que Dieu est votre protecteur, il est limité. Il dit, en fait, je ne peux rien faire, je ne peux rien lui faire parce que tu le protèges. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ces troupeaux couvrent le pays. Alors, si tu veux, si tu veux, laisse-le-moi. Il demande la permission. Parce qu'il est limité. Il y a des frontières qu'il ne peut pas franchir. Alors, si ça vous attrape, c'est que Dieu lui a donné la permission. Parce qu'il ne peut pas vous toucher. Il dit, mais tu l'as protégé. Si, enlève seulement ta protection. Et tu vas voir ce que. Donc, pour lui, sa condition, que Dieu enlève sa protection. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici. Tout ce qui lui appartient, je te le livre. Prends. Seulement, je te limite quand même. Ne porte pas la main sur lui. Limite. Satan dit, ça me suffit. Et il s'en va. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Quant à vous et moi, dans Josué chapitre 1er, Dieu dit, voici les limites. Voici vos frontières. À l'intérieur de ces frontières, vous pouvez aller où vous voulez. Tout lieu, n'importe lequel. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, c'est Josué 1:8. C'est à vous. Ça va? Et frère, on parle de la puissance de Satan. Qu'est-ce que Satan peut faire avec moi? La seule chose qu'il peut faire, c'est m'enlever la vie ici sur la terre. C'est son maximum. Il ne peut plus aller plus loin que ça. À Dieu me ne plaise, mais il peut me coller une sale maladie. Il peut me coller une sale quelque chose, mais c'est tout ce qu'il peut faire. On me met dans un couvercle, paf, on m'enterre. Pour Satan, avec moi, c'est terminé. Ça va? Mais pour Dieu, c'est pas terminé. Et vous qui avez la foi, au moment où vous vous endormez comme ça. Vous savez, les promesses divines, il y a certaines promesses que vous avez demandées, que vous n'avez jamais reçues, mais que vous avez vues de loin. Contentez-vous de ça. Parce que c'est ceux qui avaient la foi dans Hébreux 11, hein, ils ont salué certaines promesses de loin. Ils ont vu de loin. Ils les vivront certainement. Parce que la vie, comment dirais-je, la foi va au-delà de la puissance de Satan. Par la foi, vous pouvez même le chasser, Satan. Quand Jésus-Christ a envoyé ses disciples, les 70, ils sont partis, ils sont revenus. Jésus dit, j'ai vu Satan précipiter du ciel, tomber comme un éclair. C'est dire avec quelle puissance ils sont partis. C'est dire quelle puissance un enfant de Dieu peut avoir. C'est la puissance de Dieu au travers de l'enfant de Dieu. Amen. Alors, à Samuel, moi j'ai dit, il faut que quelque chose soit passé, se soit passé dans votre vie. Et David, il entend les vantardises de cet homme. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, ça m'intéresse. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. David, est-ce que tu as vu comment il est? Trois, c'est combien de coudées? Je crois six coudées. Il a des javelots longs, je ne sais pas combien. Il a ses boucliers, ce sont des hommes qui portent, tellement c'est grand. Alors, verset 31, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. Saül dit, allez un peu me chercher ce petit vantard. David dit à Saül, que personne ne se décourage, sire, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur, moi, ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et lui, il est un homme de guerre, dès sa jeunesse. Est-ce que tu étais là, dès sa jeunesse? David dit à Saül, ton serviteur, voici ce qui s'est passé dans ma vie. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. C'est arrivé dans ma vie, pas dans la vie de mon frère ou d'un de mes frères dans ma vie à moi. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, regardez son assurance, sûrement, sûrement, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera peut-être aussi de la main de ce Philistin. Il n'y a pas de peut-être. J'espère que l'Éternel me délivrera de la main de ce Philistin. Non, il n'y a pas de j'espère. Je souhaite qu'il le fasse. J'espère qu'il va entendre ma prière. S'il vous a appris à prier, hein, c'est parce qu'il veut vous entendre. C'est pour ça qu'il vous a appris à prier. Donc, il n'y a pas de j'espère. Il n'y a pas de je souhaite. Il n'y a pas de je pense que. Il y a une certitude. L'Éternel me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Va, et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec moi. Pour ça, ne t'inquiète pas, il sera avec moi. Il m'accompagne tous les jours de ma vie. C'est votre cas, c'est notre cas à nous tous. S'il y a des choses qui ne nous sont pas arrivées, C'est parce que sa bonté, sa grâce nous ont accompagnés tout au long de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Prions. Ayons cette assurance. Souviens-toi, Seigneur. Lorsque tu as répondu dans nos combats, dans nos difficultés, parce que tu as répondu à nos prières, tu as fait des choses merveilleuses, tu as fait des choses grandioses qui ont fait que désormais, toute notre confiance est placée en toi. Je t'en remercie pour ce qui s'est passé au travers de ma vie, au travers de la vie de mon frère et de ma sœur, qui a fait qu'il a tout abandonné. Ils ont tout abandonné pour te suivre, pour faire les choses selon ta volonté, de manière à ce que il te soit agréable. Parce que nous nous en souvenions toujours. Et si tu as agi ainsi en notre faveur, ce n'est pas parce que nous étions les meilleurs. David n'était pas meilleur que ses frères. David a fait des choses que même ses frères n'ont pas fait. Mais il a vécu ses expériences avec toi. Uniquement par ta grâce et à cause de ta bonté. Ce qui est notre cas, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous comptons tout simplement sur ta grâce et ta bonté. Et nous avons cette certitude, sûrement, ta bonté et ta grâce nous accompagneront tout le reste de notre vie. Tu ne nous abandonneras jamais. Merci pour cette soirée, merci pour le temps que nous avons passé ensemble. Merci, ô Dieu, de raccompagner tous ceux qui doivent rentrer. Merci pour ceux qui vont rester, que tu sois au milieu d'eux. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Nous nous en remettons à toi et nous nous attendons à toi. Au nom merveilleux, tout suffisant et tout puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, t'avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse.